Alléluia.
Eh bien, frères et sœurs, je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 2. Évangile de Luc, chapitre 2. Une portion de la parole de Dieu, une portion de circonstance. Luc, chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César, Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui est enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et pour ne pas être trop long, je vous reporte ensuite au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Amen. Frères et sœurs, ce matin, notre frère a dit, « Jusque-là, l'Éternel nous a secourus. » Et dans la semaine, justement, cette pensée m'était venue. Et j'ai pensé à Samuel, précisément, qui, après une bataille très dure, avait offert à l'Éternel un agneau qui avait crié vers l'Éternel. Et l'Éternel l'avait exaucé, ce fut la victoire. Et alors, il a dressé une pierre. Il a appelé cette pierre Ebenezer, pierre du secours. Et il a ajouté, car jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Et j'ai pensé précisément que cette pierre du secours pour nous, c'est le Seigneur Jésus. Et chacun d'entre nous peut dire, jusque-là, l'Éternel m'a secouru. Certes, les vents ont soufflé et la tempête a sévi. Certes, nous avons sans doute lutté et souffert. Mais ne pouvons-nous pas dire quand même maintenant, par Jésus, l'Éternel nous a secourus. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus, mais la pierre du secours est éternelle, il vit éternellement. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, a dit Jésus, il est au milieu de nous. Nous ne serons donc jamais privés du secours de l'Éternel. Il nous a secourus, il nous secourra toujours. Nous pouvons être pleinement confiants. Et je vais vous parler, bien sûr, de Noël. Déjà, la date est passée. Les chrétiens d'Occident fêtent Noël le 25 décembre. Et les chrétiens orientaux fêtent le 6 janvier. Parce qu'on ne sait pas exactement la date, mais qu'importe, Jésus est né, il est venu parmi nous pour nous secourir. Pourquoi le 6 janvier pour les chrétiens orientaux? Eh bien, parce que ne sachant pas la date exacte, ils ont raisonné et dit, Dieu a créé l'homme le sixième jour, donc le second Adam doit être né aussi le sixième jour. Et comme il n'y avait pas entente entre les orientaux et les occidentaux, eh bien, en Occident, on a dit, eh bien, nous allons fêter 6 jours avant la fin de l'année. Qu'importe, Jésus est né, et l'essentiel, c'est que nous possédions le Seigneur. Nous avons lu, donc, dans notre texte, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. À quoi pensait César? Il pensait probablement à faire entrer impôts et taxes au maximum dans sa caisse. On pense en général que c'est pour cela qu'il a ordonné ce recensement. En réalité, frères et sœurs, toute créature est dans la main de Dieu. Et Dieu manie comme il veut, que l'on soit roi ou que l'on soit humble sujet, nous sommes dans la main de Dieu. Et même le Seigneur emploie ceux qui agissent en ennemis de Dieu. Et cet homme, ce César donc, a ordonné que le recensement se faisait pour chacun et que chacun devait aller dans sa propre ville. Et il croyait vraiment avoir trouvé un moyen à recenser tout le monde dans son empire. Mais savez-vous, Joseph et Marie habitaient à Nazareth, qui est tout à fait dans le nord, en Galilée, et Bethléem se trouve dans le sud, près de Jérusalem, pas trop loin d'ailleurs. Et il a fallu que Joseph et Marie quittent Nazareth et aillent à Bethléem. Et vous savez, ça fait quand même quelques kilomètres et on n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Et c'est alors que justement Jésus est né à Bethléem. Pourquoi? Il fallait que Jésus naisse à Bethléem. Il fallait que le Messie naisse à Bethléem parce que l'Éternel l'avait décidé ainsi. Et il y a une prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1, où il est dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Il fallait que Jésus naisse à Bethléem, et voilà pourquoi donc, à son insu, César Auguste a fait ce que Dieu voulait, et sa décision contribua à accomplir pleinement la prophétie de Michée concernant la naissance du Messie, la naissance de Jésus. Après cela, nous pouvons être tranquilles une fois de plus. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Et au-dessus de tout, c'est Dieu qui commande, qui dirige, qui ordonne. Et c'est pourquoi nous pouvons être pleins de confiance. Nous voici donc à Bethléem. Et il nous est dit au verset 7, elle, Marie, emmaillota son fils et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et ça m'a toujours touché, frères et sœurs, cette dernière parole qui nous est rapportée, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Point de place pour eux dans l'hôtellerie. À peine Jésus va-t-il entrer dans le monde, il n'y a déjà plus de place pour lui. Point de place à sa naissance. Plus tard, pendant son ministère, point de place non plus. Le Seigneur dira lui-même, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » À la fin de son ministère, plus tard, devant Pilate, la foule criera encore, « Crucifie, ôte, ôte, crucifie-le !» Point de place, après tant de bien que le Seigneur aura fait, guéri les malades, délivré les possédés, même ressuscité des morts, eh bien non, ôte, ôte, crucifie-le. Point de place pour le Fils de Dieu. La seule place qu'on lui accordera, ce sera la place d'un criminel, d'un condamné à mort, sa place sur le bois de la croix. L'hôtellerie, frères et sœurs, était probablement un caravansérail, c'est-à-dire une hôtellerie pour les caravanes. Il nous a été donné de visiter un de ces caravansérails. C'est une cour très grande, comme ça, comme notre salle à peu près. Au milieu, un puits, car il faut de l'eau, des mangeoires et des abreuvoirs pour les bêtes. Tout autour, sur les quatre côtés, une galerie donnant accès à des loges où les plus riches y allaient et les autres se mettaient dans la cour avec les animaux. Cette hôtellerie est donc encombrée de gens, de bêtes, de bagages. Mais pour la Sainte Famille, Marie, Auger et Joseph, point de place pour eux. Personne ne s'est gêné, ne s'est dérangé, et point de place pour eux. J'aimerais, frères et sœurs, user d'accommodation, et puis vous dire que cette hôtellerie pourrait très bien être comparé au cœur humain, encombré d'un peu de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses, que de pensées qui traversent nos cœurs comme des voyageurs, et puis que de fardeaux qui demeurent comme de lourdes pierres dans nos cœurs. Et le Seigneur Jésus plus tard dira, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà notre cœur semblable à l'hôtellerie très encombrée. Le cœur est large pour tout ce qui est charnel. Le cœur est large pour tout ce qui est matériel et terrestre. Il est large pour les convoitises, les affaires, les projets personnels. Il est large pour maman. Oh, le cœur est large. N'est-il pas large? Quand nous savons qu'au moins 2000 démons avaient trouvé place chez le possédé de Gadara, puisque ces 2000 démons sont entrés dans le troupeau, composé de 2000 pourceaux, et ce troupeau s'est jeté à la mer. Comme le cœur est large, il en est tout autrement en ce qui concerne les affaires du Seigneur. En quelque sorte, spirituellement parlant, frères et sœurs, Christ doit naître et croître en chacun de nous, en chacun d'entre nous. Il doit naître dans nos cœurs, il doit croître, il doit porter du fruit dans nos cœurs. Laissons ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne lui appartiennent pas, mais occupons-nous de ceux qui l'ont reçu déjà dans leur cœur. Beaucoup ont reçu le Seigneur dans leur cœur un jour, puis certains l'ont laissé à la porte, l'ont mis à la porte. En effet, Apocalypse 3, 20, le Seigneur Jésus plus tard s'adressera à l'église de Laodicée. Et il dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et souvent, ce verset est employé pour dire à nos amis, « Le Seigneur est à la porte de vos cœurs et il frappe. » Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais là, le Seigneur s'adresse, il me semble, à une église, à l'église de Laodicée, et il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Pourquoi, Seigneur, es-tu à la porte? C'est que cette église a mis Jésus à la porte. Et il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi de nous. Oh, ce serait un grand malheur que de mettre Jésus à la porte. Que nous resterait-il après cela? Chez d'autres, le Seigneur n'est pas mis à la porte carrément, mais Christ est devenu, entre guillemets, méconnaissable. Méconnaissable par l'agissement de ces chrétiens qui, un jour, avaient reçu le Seigneur, et que maintenant, ils agissent de telle manière, ils agissent comme des païens, et de ce fait, Christ est méconnaissable. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galate, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Comment? Brave apôtre Paul, de nouveau. Parce qu'un jour, il a annoncé Christ. Et maintenant, il voit Christ tellement défiguré, méconnaissable par l'agissement de ces chrétiens, qu'à nouveau, il éprouve les douleurs de l'enfantement et il sera dans la souffrance jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Frères et sœurs, pensez et réfléchissez au-dedans de vous, voyez si Christ n'est pas défiguré. Car quand Christ n'est pas formé en nous, bien que nous nous déclarions chrétiens, nous vivons comme des païens. Si Christ n'est pas formé en nous, j'ai dit. Et l'apôtre dira aux Éphésiens, d'abord il parle des païens et de ce qu'ils font, ça c'est une autre affaire, ne nous occupons pas outre mesure, Mais s'adressant aux Éphésiens, il dit, 80, « Et ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous qui vivez comme les païens, après avoir reçu Christ, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut agir, ce n'est pas ainsi qu'il faut vivre, ce n'est pas ainsi qu'il faut parler, ce n'est pas ainsi qu'il faut penser. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et je suis persuadé que jusqu'à présent, la parole que vous avez, que vous avez entendue vous a présenté Christ comme il est réellement la vérité même de Dieu. Et aux Éphésiens, il dira en substance, renoncez au mensonge, renoncez à la colère, renoncez au vol, renoncez aux paroles déshonnêtes. Qu'il n'y ait point d'amertume, d'animosité, de clameur, de calomnie, n'apparaisse point au milieu de vous. Frères et sœurs, nous avons tous besoin de manifester Christ comme nous avons appris au travers de la parole de Dieu. Certains l'ont mis à la porte, chez d'autres, Christ est devenu méconnaissable, et chez d'autres, il est à l'étroit. Il est à l'étroit. En effet, aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, bien que le contexte soit différent, l'apôtre Paul dit, vos entrailles se sont rétrécies. Un peu plus loin, il ajoute, élargissez-vous. Frères et sœurs, Christ chez vous, en vous, est-il à titre d'hôte ou bien à titre de maître? Vous savez, quand on invite quelqu'un, eh bien, l'invité, l'hôte est toujours gêné. Il se tient debout, il attend qu'on lui dise « asseyez-vous ». Et puis, avec cette expression toute faite, « faites comme chez vous ». Mais l'invité ne fait quand même pas comme chez lui, n'est-ce pas? Il est gêné. Est-ce que Christ est votre invité seulement? C'est-à-dire n'avoir pas droit à dire, à faire, à ordonner. Ou alors est-il vraiment le maître? S'il est le maître, il a droit, il ordonne et il a droit sans se gêner. N'est-il pas chez lui? Ah, il faut que le Seigneur Jésus, justement, ne soit pas à l'étroit chez nous, mais au contraire, nous avons besoin de le mettre au large. Un exemple, Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Or, nous savons que Marthe est une femme de caractère, elle commande, elle dirige bien sa maison. Mais dès que Jésus est entré dans sa maison, elle ne commande plus. Et elle laisse la direction à Jésus. Quand il y aura un différend dans son cœur avec Marie, sa sœur, elle n'ira pas elle-même apostrophée Marie, mais elle s'adressera à Jésus. Seigneur, dis-lui donc de m'aider. Elle ne peut pas le dire, elle ne peut plus le dire, parce que Jésus est dans sa maison, il est le maître. Il nous conviendrait de faire comme Marthe, que Jésus soit le maître et que nous, nous soyons à son service. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche, et tu dis dans l'Ancien Testament, et combien nous avons besoin de nous plier aux paroles de la bouche de notre Dieu. Il est à l'étroit ou au large, et enfin chez Paul. Pour bien finir par là, l'apôtre Paul, eh bien Christ en lui, en Paul, vit, et il fait vivre. C'est pourquoi l'apôtre dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et un peu plus loin, aux Philippiens, l'apôtre dit, Christ est ma vie. Si vous ôtez Christ, vous ôtez la vie. Et l'apôtre n'existe plus. Mais il est conscient. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, frères et sœurs, résumons, point de place pour le Seigneur dans l'hôtellerie. Mais chez nous, alors qu'il y est entré, faisons bien attention, ne le mettons pas à la porte, ne le laissons pas dehors, ne le rendons pas méconnaissable, ne le mettons pas à l'étroit, mais qu'il soit en nous et toute notre vie, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous allons un peu plus loin. Dans cette contrée, il y avait donc des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Hors du temple, c'est aux bergers que l'Éternel révèle la naissance de son Fils, la naissance du Sauveur. Et nous pouvons constater que les patriarches ont été également bergers. Abel était berger et il fut massacré. Jacob a gagné son troupeau à force de travail. Moïse était également berger, il paissait les troupeaux de son beau-père, mais plus tard, il allait devenir en quelque sorte le berger d'Israël et faire sortir ce peuple du pays d'Égypte. David aussi fut berger. Et il dira un certain jour, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en élever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. » Il a préfiguré en quelque sorte, ils ont préfiguré en quelque sorte, compris les autres, ils ont préfiguré Christ. David délivrait au péril de sa vie. Christ délivre au prix de sa vie. C'est différent. Il se donne. En effet, Jésus dira plus tard, Jean 10, 11, « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Les brebis du Seigneur sont des hommes, des femmes. L'ennemi, c'est Satan lui-même qui voudrait ravir les brebis sur le pâturage. Et le Seigneur Jésus, un certain jour, d'ailleurs, voyant la foule, il fut ému de compassion et il dit, il eut compassion parce que cette foule était comme des brebis sans berger. Et alors le Seigneur a pourvu, vous le savez, par la multiplication des pains. À ces bergers, je reviens à notre texte, un message a été donné. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. D'abord, aux plus humbles, ce message est révélé. Et à quel signe le connaîtra-t-on? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Oh, adoptons plutôt un mot plus facile, dans une mangeoire. Frères et sœurs, il n'y avait rien d'extraordinaire, d'étonnant, en Palestine, surtout dans ces petits villages, que l'on dépose un petit enfant dans une mangeoire. Ça se faisait encore dans le Keras, par exemple. Mais ici, il ne s'agit pas d'un fils de roi, mais du Fils de Dieu. Lui, de mille gloires. Voilà, un petit enfant mailloté et puis couché dans une crèche. Pourquoi cela, Seigneur? Parce que Jésus s'est abaissé au plus bas pour élever au plus haut les créatures déchues. Et plus tard, le Seigneur Jésus dira, « Apprenez de moi, qui suis humble et doux de cœur. » Oh, comme nous avons besoin d'apprendre du Seigneur, cette humilité et cette douceur pour l'honorer et le glorifier. Et Seigneur, à quoi reconnaîtra-t-on tes disciples? À quoi reconnaîtra-t-on les disciples du Seigneur? Eh bien, le Seigneur le dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, le Seigneur nous a aimés sans regarder à nos défauts, sans regarder à nos péchés, sans regarder au néant. Non, il nous a aimés tel qu'il nous a trouvés, tel que nous étions. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur m'aime. Je ne suis pas parfait. Je n'ai pas parfait non plus. Mais le Seigneur nous a aimés. Alors, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous aussi les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples et que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas parce que je parle en langue, pas parce que j'exerce d'autres dons, pas parce que je guéris les malades, pas parce que je fais des miracles, mais c'est à l'amour que l'on reconnaît le véritable disciple du Seigneur. Plus tard, Paul dira que l'humilité vous fasse regarder votre prochain comme étant au-dessus de vous. Et c'est ça qui nous gêne quelquefois, n'est-ce pas? Qui gêne la nature humaine. Mais l'humilité qui fasse regarder comme étant au-dessus de vous. Les bergers, loin de se désintéresser, disent « Allons jusqu'à Bethléem ». Avant, ils ne savaient pas, maintenant ils savent qu'un sauveur leur est né, savoir. Et puis, ils ont cru à ce qui leur a été annoncé, que ce sauveur était né. Puis, ils ont voulu aller voir. Frères et sœurs, nous trouvons donc trois éléments dans ce que les bergers ont fait ou au travers des bergers. Savoir, c'est une bonne chose, il faut bien savoir. C'est pour cela qu'il faut que l'Évangile soit prêché. Et c'est pour cela aussi que les chrétiens doivent savoir, apprendre de plus en plus de manière à faire des progrès. Savoir. Il faut croire, car si nous ne croyons pas, eh bien le savoir ne servira pas à grand-chose, et troisièmement, le vouloir. Tu sais, mon frère, ma sœur, eh bien c'est bien, mais la parole de Dieu dit, la connaissance enfle, et l'enflure n'est pas un signe de santé. La connaissance enfle. Je sais, moi je connais toute la parole, n'est-ce pas? Moi je ne connais pas toute la parole. Et plus j'y vais, moins je connais. Il me semble, parce qu'il y a bien des choses à apprendre. La connaissance enfle. Tu crois? Tu fais bien, il faut croire. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais les démons aussi croient. Et il tremble, nous est-il dit. Et troisièmement, alors, veux-tu ou ne veux-tu pas? C'est là la clé. Ayant la connaissance, ayant la foi, veux-tu ou ne veux-tu pas? Voilà la clé, donc, parce que la connaissance est utile, mais la foi est agissante par la charité, par les œuvres, comme vous le savez. Chose que les démons, eux, ne font pas, ils agissent dans le mauvais sens. Et bien après ces jours, après cette visite plutôt, les bergers sont retournés dans la joie d'avoir constaté que tout ce qu'on leur avait dit était vrai. Ils se sont retirés donc pleins de joie. Frères et sœurs, nous aussi, nous devons, nous croyons, bien sûr, nous connaissons bien des choses aussi, mais maintenant, il faut que notre volonté soit pour accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu, que notre volonté soit la servante de la sienne. Il me faudra très rapidement vous parler de Siméon. Hors du temple, ce sont les bergers qui ont été avertis. Dans le temple, c'est Siméon qui vient avec la révélation qu'il a reçue. C'est un homme juste, nous a-t-il dit. Observateur donc des commandements du Seigneur. Il était pieux. La piété, c'est l'attitude de la créature devant, tournée vers Dieu. Il attendait, donc c'était un homme de foi, et pourtant il vieillissait. Le Saint-Esprit était sur lui, Dieu l'avait scellé par le Saint-Esprit. Et bon nombre d'entre nous aussi, n'est-ce pas, ont reçu le Saint-Esprit, et ils bénéficiaient des le Christ, le Sauveur. J'ai trouvé que c'était un homme excellent, entièrement consacré au service du Seigneur, se réjouissant dans le Seigneur, et que nous avions besoin, nous aussi, après la connaissance, la foi et la volonté que nous pouvons avoir à bien faire, nous consacrer chaque jour. Qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, il est dit que cet homme vient au temple. Et acceptez l'image, ses pieds étaient consacrés. Au lieu d'aller ailleurs, eh bien, ses pieds l'ont conduit au temple. Mais vous savez, l'image n'est pas trop forte, puisque dans l'hébreu, il est dit, Hébreu 12, 13, « Suivez avec vos pieds des voies droites, et les voies droites sont les voies du Seigneur, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Je dirais, c'est la rééducation. D'habitude, ce n'est pas la voie droite que l'on cherche, c'est la voie de l'intérêt, c'est la voie du plaisir. Et c'est pourquoi maintenant il est dit, suivez de vos pieds des voies droites, de manière, c'est un peu ça. Ses bras sont également consacrés. Il reçoit Jésus dans ses bras. Que peut-il faire d'autre que simplement soutenir Jésus, qui est la vérité? Il est dit dans Hébreux 12, verset 12, fortifiez donc vos mains languissantes. Languissantes. Sa langue est consacrée. Maintenant, Seigneur, dit-il, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tant qu'on parle de Dieu ou de Jésus, ni de quelqu'un d'autre, on ne murmure pas, on ne juge pas, on ne ment pas, on ne critique pas, on parle à Dieu ou on parle du Seigneur. Simon parle de Dieu pour le louer et de Christ à ses semblables. Ses yeux sont également consacrés. Son regard n'erre pas à droite et à gauche, mais au contraire, il dit, mes yeux ont vu ton salut. Tout est absorbé dans son Seigneur. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Ôte d'abord la poutre qui est dans le tien, alors tu verras comment ôter la paille. Si nos yeux sont consacrés au Seigneur, nous n'irons pas chercher la paille dans l'œil. Et donc, entièrement consacré. Eh bien, frères et sœurs, je m'arrête là. À cause du temps, j'en ai assez dit, que le Seigneur nous aide maintenant à faire les choses selon sa volonté. Seigneur notre Dieu, ta parole est bonne, elle est vivante. Elle nous enseigne, elle nous nourrit, elle nous fortifie. Elle nous redresse, elle nous dirige. Que ton nom soit béni. Et que Christ vive en nous pleinement pour la seule gloire de ton nom. Amen.